Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez passé un bel été. De notre côté, on a pris une petite pause estivale pour le podcast. Et on revient aujourd'hui pour un nouvel épisode. L'été ayant été riche en annonces de résultats d'entreprise, on va passer une petite partie du podcast à détailler certains de ces résultats, ceux qui ont été les plus marquants pour le fond notamment. Et avant cela, nous ferons comme d'habitude une petite revue de l'environnement de marché sur les derniers mois, ainsi qu'une petite revue du portefeuille en détaillant un petit peu les mouvements qui ont été faits et les principaux résultats. Avant de commencer, les petites recommandations habituelles. Ce podcast et l'ensemble de son contenu est le reflet de notre sentiment sur les marchés financiers et est diffusé à titre exclusivement informatif. En cela, il ne constitue en aucun cas une offre ou un conseil pour acheter ou vendre un instrument financier. Et maintenant, je vous propose de commencer directement avec Boytech. Si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as trouvé d'intéressant sur l'été, peut-être en commençant directement par l'Inde et la Thaïlande, par exemple, qui ont connu des mouvements assez importants.
Merci, merci Benjamin. Bonjour à tous. En effet, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On était globalement sur les marchés, mais si on regarde plus spécifiquement nos marchés à nous, peut-être une chose qui nous a un tout petit peu interpellés, c'est la décision du gouvernement indien de baisser la GST, donc qui est l'équivalent du VAT pour nous, des TVA pour nous. Pourquoi c'est un peu étonnant, voire un peu négatif, c'est qu'on sait très bien que le marché indien est en perte de vitesse, l'économie indienne est en perte de vitesse, mais là, le gouvernement indien revient un tout petit peu sur ses anciens schémas, qui consistent donc à privilégier la consommation plutôt que l'investissement ou l'industrie, hein, parce qu'on a récemment beaucoup parlé du marché indien qui doit être la nouvelle Chine, etc. Et donc là, malheureusement, on a l'impression que le gouvernement indien est en train de faire un peu marche arrière, hein, par rapport à tout ce qui concerne investissement et industrie, qui sont les outils indispensables pour toute économie de sortir de la pauvreté, donc d'augmenter durablement le PIB par habitant. Donc, je voulais dire, c'est un peu décevant. On comprend, hein, parce que la consommation indienne, c'est 60% de son PIB, donc c'est vraiment un très 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 grand contributeur. Mais à un bon moment, il faudrait que le gouvernement indien, finalement, passe par cette phase d'ajustement difficile, ce que a fait la Chine dans son temps. Mais malheureusement, ce n'est pas tellement le cas. Et puis, on a Thaïlande, le marché thaïlandais dont nous avons parlé dans un de nos podcasts précédents, qui a beaucoup souffert cette année boursièrement, pas seulement. Donc, à un moment, effectivement, on s'est posé la question, est-ce que c'était le moment d'y aller? Effectivement, le marché a fortement rebondi. Il a été survendu, clairement. Malheureusement, les fondamentaux macroéconomiques, les fondamentaux politiques restent plutôt faibles. Il y a très peu de croissance. Les taux d'intérêt ont déjà beaucoup baissé. Nous avons eu 3 baisses des taux cette année et les taux de la politique monétaire sont aujourd'hui à 1,5%. Bon, l'inflation est très faible aussi, aux alentours de 1%. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'appétit pour l'endettement en Thaïlande, puisque la population, le consommateur thaïlandais est aujourd'hui déjà fortement endetté. Et donc on a cette faiblesse macroéconomique, plus beaucoup de soucis politiques, plus une valorisation qui est aux alentours de 14 fois les bénéfices pour l'ensemble du marché. Donc tout ça ne paraît pas quand même très très attrayant. Donc nous ne participons pas pour l'instant au rebond éventuellement de ce marché s'il devait se poursuivre.
Ok, merci Wojtek. Et Charles, je crois que ça a bougé pas mal du côté du Brésil aussi.
Oui, effectivement, il y a eu surtout beaucoup beaucoup dans les dans les journaux, dans les news, on a entendu beaucoup parler parce qu'effectivement, Monsieur Trump a pas mal attaqué le Brésil sur des bases plutôt politiques et à travers son arme favorite du moment, qui sont la mise en place de droits de douane. C'est possible aussi que les États-Unis soient un petit peu énervés par le fait que le Brésil a pas été un très bon ami des grands groupes américains, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les systèmes de paiement financiers, et que en plus de ça, il y a quand même un certain rapprochement en cours de tous les pays des BRICS. Et donc, avec la Chine comme ancrage un petit peu central de ce groupe qui est en train de se créer, on l'a vu avec le sommet des BRICS qui a eu lieu au Brésil. Les annonces de Trump ont suivi ce sommet-là, et cette semaine encore le sommet en Chine, avec justement une espèce de front un petit peu anti-occidental et anti-américain qui se met en place autour de la Chine. Donc globalement, on voit bien que la consolidation des BRICS continue, ce qui ne plaît évidemment pas forcément au président américain, même si bon, c'est pas une très grande menace à ce niveau-là. Et malheureusement, je dirais pour le marché brésilien, c'est que un petit peu ces attaques externes ont renforcé la popularité de Lula, ce qui n'est pas positif quand on regarde l'état global des finances du pays. Les élections présidentielles sont encore très loin, il reste beaucoup de temps, donc il n'y a pas de c'est rien de définitif, mais c'est quand même quelque chose d'un peu négatif qu'on a vu comme développement, surtout sur le mois d'août.
Ok. En parlant des BRICS, on voit que la situation n'est pas la même pour tous les pays des BRICS. En effet,
Jack,
je crois
tous.
Que le marché chinois va plutôt bien pour l'instant, alors qu'on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, on le considérait comme non investissable. Donc il y a eu un assez gros changement de ce côté-là, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Je ne vais pas citer le nom de la grande banque d'investissement américaine
qui commence par
en 2022, voilà, je ne vais pas le dire, en 2022 a publié une note disant que le marché chinois était désormais non investissable. Quand souvent c'était plutôt le point bas du marché, ou presque, puisque le marché chinois monte maintenant depuis déjà janvier 2024. Le Hang Seng est en hausse de 65%. On a un peu regardé comment ça se comparait à d'autres hausses récentes que le marché a connues. Bon, celle-là, elle commence à être assez longue, puisqu'elle dure maintenant depuis 6 trimestres environ. Les hausses précédentes ont duré respectivement 8 trimestres et 14 trimestres. Là, je parle de première hausse de entre 2016 et 2018, puis une autre entre 2011 et 2015, plus ancienne. Et à chaque fois, les marchés ont monté de 60 à 70% durant cette hausse. Donc là, aujourd'hui, on est déjà plutôt sur les mêmes niveaux. Cependant, il faut garder en tête que la baisse qui a précédé la hausse actuelle était bien plus forte que les baisses qui ont précédé les hausses d'avant. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, en gros, on est parti cette fois-ci, donc en juillet 2024, des niveaux bien plus bas que dans les cas précédents. Quoi qu'il en soit, après une montée de 60-70%, il faut bien évidemment commencer à faire un petit peu attention. Une correction peut avoir lieu à tout moment en Chine et surtout, j'ai envie de dire, ailleurs, parce que les marchés sont tendus, marchés ont fortement progressé ces derniers mois, alors que les fondamentaux ne sont pas tellement améliorés. C'est surtout l'expansion des multiples qui a tiré les marchés à la hausse. Maintenant, nous ne sommes pas tellement inquiets sur le moyen terme, je veux dire pour la Chine. Nous ne sommes pas très inquiets pour la Chine sur le moyen terme. Et pourquoi cela? Mais parce que il nous semble que, généralement parlant, la situation géopolitique qui a fait tellement peur au marché il n'y a encore pas très longtemps est finalement peut-être un peu meilleure qu'anticipée. La Chine a, selon nous, pas trop mal joué les annonces tarifaires de Trump. Ils sont bien préparés, effectivement, ils ont tout de suite riposté. Et probablement, ça a donné des résultats qu'on voit maintenant, des résultats plutôt assez positifs. Et puis le dossier taïwanais qui était aussi assez épineux et qui que les Américains se ressortent tout chaque fois qu'ils ont besoin d'un tout petit peu affecter la Chine. Là aussi, je pense que les Chinois ont clairement montré que ils vont pas céder sur ce dossier-là. Donc c'est plutôt positif. On a l'impression que la Chine a bien manœuvré les incertitudes géopolitiques récentes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, parce que probablement il faut s'attendre à quelques turbulences à venir encore. Deuxième petit point qui nous rend assez confiants, c'est que la crise immobilière finalement pèse moins. On entend toujours parler, quand on parle de la Chine, c'est partout on voit, oui, l'immobilier c'est ci, l'immobilier c'est là. C'est vrai que c'était un pilier d'économie essentiel pendant très longtemps, et ça c'est toujours un segment de l'économie très important, mais ce n'est plus le seul. Ce n'est plus le seul. Puisque entre-temps, la Chine s'est appuyée beaucoup sur son industrie de pointe, sur sa technologie, qui quand même évolue vers de plus en plus de valeur ajoutée et devient compétitive même face à la technologie américaine, et aussi des marchés voisins qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur internationale. Donc, il n'y a pas que l'immobilier en Chine. Il y a d'autres véhicules, vecteurs de croissance aujourd'hui. Et les autorités chinoises ont clairement exprimé à maintes reprises la volonté de soutenir la consommation. Et il y a des mesures qui, effectivement, sont en place. Ces mesures marchent. Ce n'est pas le fameux grand bazooka que tout le monde attendait à ce moment, mais il y a quand même des mesures. Et à chaque fois, quand il le faut, les autorités chinoises interviennent et elles ont les moyens de le faire. C'est ça qui est important. Elles ont le moyen de le faire parce qu'en même temps, il y a une restructuration de la dette qui est en cours en Chine. Et en fait, le poids de la dette en Chine baisse. Contrairement à beaucoup d'autres pays aujourd'hui à travers le monde. Et puis un dernier point qui est très boursier, c'est que le gouvernement soutient les marchés boursiers. Il veut créer une espèce d'effet de richesse lié à la bourse, au marché des capitaux. On en a déjà parlé dans le passé. Les entreprises publiques chinoises sont maintenant obligées de générer des retours décents pour les actionnaires, ce qui est vraiment quelque chose de très nouveau pour le marché chinois. C'est juste une des illustrations, pardon, de cette nouvelle situation. Donc bon, nous ne savons pas si tout cela veut dire qu'il y aura un bull market sur la Chine. Mais, on a envie de dire, pourquoi pas? On a envie aussi de demander, mais si ce n'est pas en Chine, où est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un nouveau marché haussier? Où est-ce qu'on a de l'upside sur les marges, sur les valorisations, sur la croissance, sur l'exposition des investisseurs, qui est très très faible sur les marchés émergents ou sur la Chine en particulier. Et certainement pas aux États-Unis. Hein. Tout le monde est vraiment surinvesti, mais très 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 massivement sur les États-Unis. On peut nous dire peut-être en Europe. Là encore, et ça reflète plus un sentiment personnel, je ne pense pas que l'Europe, et je le répète personnellement depuis un certain temps, puisse être le futur performeur tant que les relations avec la Russie sont mauvaises, tant qu'on a effectivement une guerre sur notre continent, et tant que la transition énergétique ne permet pas à l'Europe d'accéder à l'énergie bon marché. Je ne parle même pas de la situation de la dette. Donc, tant que tout ça reste en place, ben, l'Europe, selon moi, est plutôt cuite, malheureusement. Donc, en conclusion, parmi tous les grands marchés, finalement, un bull market en Chine et donc en Asie dans l'ensemble est le plus probable, aujourd'hui.
Ok. Merci Tech et merci Charles pour ce petit tour d'horizon. Je vous propose maintenant qu'on passe un peu plus sur le fond, savoir comment ça s'est passé et peut-être que Charles, tu peux nous donner un petit peu un état des lieux de la performance du fond sur l'été.
Oui, absolument. Alors, le fond, alors sur le mois d'août, a progressé de 5%, alors que l'indice de référence, donc le MSCI Emerging Market, le tout en euros, a connu une baisse de moins 1%. Et on voit depuis le début de l'année que votre fonds est en hausse de 14,7 versus une hausse de 5,3 pour l'indice. Encore une fois, le tout en euros et depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on a vu enfin, quand on regarde un petit peu, comment ça s'appelle,
Les comptes
un peu plus
bancaires.
en détail, voilà, pardon, un peu plus en détail les allocations, les effets d'allocation et les contributeurs. Très globalement, il y a eu évidemment un effet positif d'être investi sur la Chine. Quand on regarde les principaux contributeurs, parmi les top 10 contributeurs sur la période, il y a 8 chinoises et 2 sociétés d'Amérique latine. On peut mentionner la société Mint qui fournit les des auto parts, des composants automobiles, ben voilà, qui est très exposé à la aux véhicules électriques notamment. On peut mentionner Tencent Music, mais on y reviendra un peu plus tard. Vraiment un petit peu sur toute la côte chinoise. Il n'y a pas eu de secteurs principalement. Vraiment, les sociétés ont publié des résultats intéressants et on va y revenir. Et ça a vraiment boosté la performance et contribué positivement à la performance du fonds. De l'autre côté, parmi les pires contributeurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu de tout. Alors, faut aussi garder en tête que ça a été une période où le fonds a pas mal monté. Donc, on voit apparaître des contributeurs qui n'ont pas forcément très mal fait ou sur lesquels il y a eu quelques prises de bénéfices sur la période. On peut citer parmi ceux-là sociétés comme Odontoprev, comme Antasport en Chine. Et il y a eu quelques sociétés qui ont un peu plus déçu. Et là, on va retrouver des sociétés plutôt brésiliennes, et on reviendra sur ce point-là aussi parce que, au final, nous, c'était quelque chose qui nous est positif dans un certain sens, puisqu'on profite un petit peu de ces mauvaises des résultats un peu plus faibles qu'on trouve en ce moment et des performances un peu plus moyennes pour justement constituer nos positions pour le futur. Donc voilà, depuis ce qu'on voit, c'est vraiment une performance tirée principalement par la Chine et principalement par le stock pick sur le marché chinois.
Ok. Et parlant de stock pick, peut-être que tu peux nous donner quelques détails sur les mouvements du fonds. Est-ce qu'on a beaucoup bougé cet été?
Non, pas beaucoup. On bouge rarement beaucoup, mais nous bougeons tout de même lorsque c'est justifié, lorsqu'il le faut. Donc, nous avons finalement liquidé notre investissement sur Odontoprev au Brésil, qui vous souvenez peut-être, dans les soins dentaires, en gros, au Brésil. C'est une très belle franchise, mais sa croissance manque clairement de dynamisme et on voit on n'arrive pas vraiment à voir comment est-ce que les choses pourraient changer ici vu un peu la structure maintenant des propriétaires en quelque sorte de la société et puis le marché dans son ensemble. Nous avons également vendu PDD donc PMU c'est chez nous, c'est plus connu sous le nom de Temu, mais effectivement, cette société chinoise de e-commerce qui se spécialise dans plutôt ce qu'on qualifie de hard discount d'e-commerce. Et en fait, si Très honnêtement, nous aimons beaucoup l'idée de hard discount pour e-commerce. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui vraiment le fait d'une manière efficace aujourd'hui à travers le monde. Temu et PDD ont l'air de le faire, mais le problème est que ce business model s'appuie énormément sur la libre circulation de marchandises à travers le monde. Hein, parce que Temu et PDD se sourcent principalement en Chine pour avoir accès effectivement aux produits très bon marché. Et là, bon, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec les droits de douane, très franchement, nous on ne voit pas encore suffisamment bien comment Temu va restructurer le business model pour continuer à délivrer de la croissance. Et comme en plus c'est une société qui communique très peu, ils font pas mal, mais ils communiquent très peu, mais on n'a pas d'éléments pour, j'ai envie de dire, faire un pari, éventuellement, si ou si. Donc, pour l'instant, nous allons rester un peu à l'écart et observer ce qui se passe. De l'autre côté, nous avons acheté Trip.com, qui est en Chine la principale société impliquée dans les voyages. Donc réservation des hôtels, des nuitées d'hôtel, plus réservation des billets d'avion, des billets de train et d'autres modes de transport. C'est une société qui a entre 30 et 50% parts de marché dans les différents segments. C'est une franchise juste extraordinaire qui correspond, nous semble-t-il aujourd'hui mieux, au nouveau mode de consommation en Chine. C'est-à-dire les Chinois sont peut-être un tout petit peu fatigué d'acheter des sacs Louis Vuitton et préfère peut-être depuis quelque temps de dépenser de l'argent pour des voyages insolites ou des voyages tout court, quoi. Nous avons aussi initié sur Arca Continental au Mexique, qui est une société bien, je dirais plus classique. Parce que c'est un distributeur de produits de Coca-Cola au Mexique, dans quelques pays d'Amérique latine et aussi aux États-Unis. Et c'est surtout un compounder, c'est une société qui vraiment assure une croissance très visible, très régulière, sur du long terme. Donc c'est une espèce pour nous de core holding du portefeuille, si j'utilise un peu d'onglet ici. Nous avons pris quelques bénéfices sur les titres qui ont beaucoup monté, qui sont Tencent Music et Mint, qui ont très bien contribué à nos performances. Et nous avons bon renforcé quelques positions existantes à la place, donc il y a quelque chose qui se démarque particulièrement. Notre exposition géographique dans le portefeuille reste finalement peu changée. La Chine est à 48% du portefeuille, Hong Kong environ 10%, donc nous avons toujours une petite 60%, un peu moins de sur le monde chinois, puis il y a le Brésil qui est à environ 11%, Pérou 6%, Mexique à 5%, ça sont les principaux pays.
Ok, oui, quand même pas mal de petits mouvements pendant l'été. Vous vous ennuyez jamais de toute façon, hein. Pendant l'été il y a toujours des choses, et dont notamment il y a eu, comme on le disait en introduction, pas mal d'annonces de résultats. Donc je vous propose peut-être de commenter certains d'entre eux, et peut-être Charles, tu as déjà quelques petits commentaires à faire sur ceux qui ont été les plus marquants pour le fond.
Oui, en fait, alors, évidemment.
Le micro
est revenu. Évidemment, la période, c'était la période des résultats du deuxième trimestre ou des résultats semi-annuels. Donc c'est toujours l'occasion, l'opportunité de voir si le chemin vers les résultats annuels reste ou s'il faut les ajuster. Donc c'est une période un peu assez importante. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors on va commencer par la Chine, qui est quand même, comme l'a mentionné Wojtek, la grosse exposition et le choix du portefeuille. Ce qu'on voit, c'est que clairement la consommation reste vraiment sous pression en Chine. Les sociétés de consommation classiques souffrent plus, celles, comme disait Wojtek, qui sont plus adaptées aux nouveaux modes de consommation, s'en sortent beaucoup mieux. Dans l'ensemble, on voit que les entreprises redoublent d'efforts pour faire face à la déflation en cours et pour préserver leur capacité de fixation des prix, leur fameux pricing power. Et à ce niveau-là, on voit une société comme China Resources Beer, sur laquelle on a déjà pas mal, commenté dans des rapports ou dans des podcasts précédents. Mais sur ce point-là plus particulièrement, on voit que CRB met l'accent sur la premiumisation. L'ensemble de la catégorie premium a connu une croissance à un chiffre élevé, donc high single digit, 7-8%, et Heineken, la marque Heineken, a connu une croissance des volumes au-delà de 20%. Alors que, en face, les volumes de la marque Snow, qui est la marque mass market, a eu une croissance, on va dire, de croissance de volume qui était très très légèrement négative, qu'on peut qualifier de flat sur ou stable sur la période, mais grâce à des baisses de prix. Donc vraiment, on voit on a vu à travers CRB, mais c'est pas la seule, on en voit beaucoup d'autres. On voit clairement que tout ce qui est mass market est en souffrance. Et que pour pouvoir maintenir les niveaux de croissance, il faut vraiment donner un peu de discount ou il faut être capable de se différencier. Dans la même veine, Yum China, qui est donc l'opérateur de restauration rapide de marques telles que KFC ou Pizza Hut, s'en sort avec des ventes aux alentours de 5% sur la période. Mais elle s'en sort grâce aux ouvertures de nouveaux magasins, parce que les same store sales, donc les ventes à périmètre constant, restent stables à plus 1, c'était un très très bon résultat à plus 1% au deuxième trimestre, alors que justement sur les trimestres précédents, on avait des baisses de same store sales qui commençaient à inquiéter un petit peu. Le fait qu'ils aient pu montrer quelque chose de stable, mais en territoire positif, a été quelque chose dans les résultats qui montre que la stratégie est en train de fonctionner. Mais elle est en train de fonctionner dans un environnement, encore une fois, qui est extrêmement compliqué et avec une concurrence pour ce qu'on dit en anglais le share of wallet, donc la concurrence pour savoir où on va allouer l'argent disponible, qui est extrêmement intense. On voit que les sociétés plus classiques souffrent et on voit également de l'autre côté émerger des vainqueurs, donc des sociétés qui bénéficient de ces nouveaux modes de consommation, qui arrivent à se différencier. On a mentionné Tencent Music ou Trip.com, on peut aussi mentionner Antasport. C'est des entreprises qui sont adaptées à un nouveau mode de consommation ou qui proposent une différenciation, et celles-là peuvent s'en sortir.
Parce que je vais ajouter, effectivement, tout ça traduit effectivement les pressions déflationnistes, c'est rien de nouveau, qui sont très présentes en Chine, ça on le sait, et ce qui nous laisse penser qu'effectivement la Chine se trouve aujourd'hui dans une espèce de boom déflationniste, c'est pas mal parce qu'on parle quand même d'un boom, mais le côté déflationniste fait qu'il n'est pas facile de gagner de l'argent sur la Chine aujourd'hui, et qu'il faut effectivement être très très vigilant au fameux pricing power des entreprises que nous sélectionnons.
Et à ce niveau-là, il faut une différenciation. Il faut offrir quelque chose qui puisse attirer, parce que on n'a pas en portefeuille, mais PopSmart qui offre c'est la boubou là, pour les enfants et autres, s'en sort incroyablement bien. Ils sont en train d'inonder le monde entier de ce petit produit et qui se vendent comme des petits pains. Maintenant, il y a un boom déflationniste, il y a un changement de génération et il y a un changement de technologie aussi, donc de mode de vie avec tout le monde qui est connecté. Donc tout ça fait que on est également dans une phase de transition qui est beaucoup plus marquée en Chine, certainement, que dans d'autres marchés, avec des consommations, des types de consommation classiques qui ont peut-être un peu plus de mal à s'en sortir, et des nouveaux types de consommation qui commencent à émerger.
À ce titre-là, on a l'exemple de Tencent Music.
Absolument. Absolument, Tencent Music qui est très innovant. C'est le Pour simplifier, c'est le Spotify chinois, avec une différence que ils ont une part de marché beaucoup plus élevée. Et une autre grande différence, c'est qu'en face, la production de contenu en Chine est beaucoup plus fragmentée, ce qui donne en fait beaucoup plus de poids à la distribution, donc à TME, mais pas pour autant qui se repose sur leur loyer. Au contraire, ils jouent là-dessus pour pouvoir offrir une expérience aux consommateurs. Donc ils organisent, que ce soit online ou offline, ils organisent des concerts, ils organisent des événements privés avec des stars bien connues des réseaux sociaux ou juste des stars tout court, des ventes de produits dérivés ou encore de la création de contenu propre. Le contenu propre, maintenant, c'est à peu près 30% du total. Et tous ces événements, tout ce contenu un peu exclusif, est clairement et simplement réservé aux abonnés premium. Donc, ce qui leur permet en fait d'avoir cette transition vers des utilisateurs payants et qui permet ainsi une progression de l'ARPU vraiment vraiment intéressant. Bon, le titre a clairement fait très bien, mais il y a encore beaucoup beaucoup de croissance potentielle sur le marché chinois.
Oui, l'ARPU étant le revenu moyen par utilisateur. Voilà.
Absolument, pardon, oui. Voilà. Donc pour la Chine, on voit un petit peu ce phénomène d'éventuellement de transition de consommation. On voit également, sur un autre pan de l'économie qui est le tissu industriel, la production industrielle, ces entreprises chinoises industrielles, et on en a quelques-unes dans le portefeuille. Cherchent activement des débouchés hors de leur marché domestique et deviennent ainsi des leaders mondiaux. Le marché domestique ayant été bien pénétré et connaissant enfin évidemment une croissance un peu plus faible puisque le niveau de pénétration est plus élevé, et les parts de marché sont déjà élevées. Il y a des sociétés comme Midea qui produit des clims ou du petit électroménager pour les cuisines, beaucoup de produits industriels à ce niveau-là, est devenu un leader mondial, notamment des climatisations. Sany Heavy, qui est le Caterpillar chinois, entre guillemets, devient un leader mondial également. Évidemment, on parle pas de, enfin, on peut, de BYD, dont les ventes à l'export, ont grimpé de plus 110%. Sur la première, enfin, sont attendus en hausse de plus 110% pour l'année 2025. Donc, les sociétés, ce qu'on voit, c'est, en Chine, on voit un marché qui reste très compliqué, et les sociétés innovantes qui se différencient ou qui cherchent des nouveaux marchés sont celles qui s'en sortent. Pour rejoindre ce que disait Wojtek au départ, la hausse qu'on a connue était peut-être la hausse un peu facile jusqu'à présent, et là maintenant on va voir aussi la différenciation et le stock pick, le choix des sociétés qui va pouvoir amener de la performance.
Merci, Charles.
Voilà.
Maintenant, si on regarde un petit peu, merci pour ce résumé sur la Chine. Maintenant, si on regarde un petit peu le deuxième pays sur lequel on est le plus exposé, le Brésil, il y a eu aussi quelques résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça?
Oui, absolument. Je vais passer peut-être un peu plus vite. En fait, l'économie brésilienne est en ralentissement. Elle était certainement un peu en surchauffe l'année dernière. Et donc là, la banque centrale, la surchauffe sur un pays comme une économie comme le Brésil, ça veut dire aussi de l'inflation. Et la banque centrale brésilienne veille au grain contre l'inflation, a augmenté les taux extrêmement forts, sont maintenant à 15%, ce qui on commence à voir les effets de cette hausse de taux avec une économie qui est en ralentissement. Cette économie en ralentissement, évidemment, ça va impacter les résultats des sociétés et on s'attend à ce que ça impacte encore plus sur la deuxième moitié de l'année. C'est pas forcément un négatif, puisque pour les titres boursièrement, puisque tout le monde les investisseurs sont beaucoup plus focalisés sur l'inflation et des sociétés arrivent société brésilienne arrive à publier des très bons résultats, même dans une économie un peu plus en ralentissement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, enfin, sur le Brésil plus particulièrement, c'est des sociétés qui ont connu un petit peu quelques trous d'air dans cet environnement un peu difficile, et ces difficultés qui peuvent être liées dans certains cas à une grosse acquisition, comme la société Grupo GPS, qui est une société de services industriels, nettoyage, sécurité, etc. Ou des difficultés liées à un ralentissement économique, comme ça a été le cas pour la chaîne de pharmacie RD Saoji. C'est en fait, nous, on a profité au premier semestre, pas que sur l'été, mais un petit peu avant aussi, de ces trous d'air pour justement constituer des bonnes positions sur des sociétés qui sont de très très grande qualité et qui même s'ils passent temporairement par ces phases de ralentissement, on est convaincu que sur un horizon 3 à 5 ans vont pouvoir repartir et vont pouvoir avoir des retours très intéressants, même si justement une fois que les vents contraires vont être beaucoup plus calmes. Si je donne l'exemple de RD Saoudi, par exemple, sur une économie en fort ralentissement, avec des impacts également un petit peu saisonniers, etc., les ventes ont quand même progressé de 12% sur le deuxième trimestre, et les profits de plus 8%. Donc on est bien loin de la catastrophe annoncée, et évidemment, quand l'économie va pouvoir repartir un peu plus, bah, ces sociétés-là seront extrêmement bien positionnées pour en profiter.
C'est vrai que le Brésil, c'est un marché qui est super frustrant en quelque sorte, à cause de cette dichotomie qui existe entre d'un côté une macro qui n'est pas extraordinaire, pas toujours, mais la plupart du temps, qui est
souvent
décevante, souvent un peu décevante, etc. Et de l'autre côté la micro, donc le monde d'entreprise qui offre vraiment des parmi les plus belles franchises du monde émergent, vraiment d'extraordinaires sociétés qui, je ne sais pas ce qu'elles seraient s'il y avait la macro qui les supporte davantage au Brésil, quoi. Donc c'est vrai que
l'un qui a provoqué l'autre.
Voilà, peut-être, effectivement, probablement même, oui, probablement, effectivement, il y a cette grande résistance de beaucoup d'entreprises brésiliennes qui est là parce que elles savent qu'elles doivent survivre même avec des taux d'intérêt à 14%, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas évident de gagner de l'argent quand tu as 14% au niveau de coût de l'argent, quoi. Donc,
c'est voilà. 15.
Ouais. Bon, bref.
Ok. Bon, merci beaucoup pour ces d'autres commentaires, Charles Check, sur les résultats.
Non. Je crois qu'on okay. a fait un peu le tour, va, je pense.
Merci, ouais, on a fait un beau tour d'horizon de toutes les, de pas mal de sociétés du portefeuille, en tout cas. Et pour terminer, je sais que vous avez un peu travailler sur un thème qui est l'évolution des bénéfices par action dans le monde émergent, sur le long terme notamment. Vous avez posé quelques questions et essayé de réfléchir un peu à ce sujet-là. Wojciech, est-ce que tu peux me dire quels sont un petit peu les résultats de ce que vous avez pu observer sur cette évolution des bénéfices par action dans le monde émergent?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous savons que la performance des bourses émergentes a été décevante sur le long terme, sur les 10 dernières années, voire un tout petit peu plus. Et effectivement, elle s'explique largement, cette faible performance, par ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au niveau des bénéfices par action, au niveau des BPA. Parce que les bénéfices par action dans le monde émergent entre 2015 et 2025 n'ont pas bougé, quoi. Il n'y a pas eu de croissance en dollars. Il n'y a pas eu de croissance de bénéfices par action sur 10 ans, alors que entre temps on a eu une formidable croissance de bénéfices par action, par exemple aux États-Unis, hein, ce qui forcément explique la surperformance de ce marché. C'est un autre sujet. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de croissance? Mais parce que d'une part les ventes des entreprises émergentes étaient faibles. Donc, les ventes par action ont aussi été très faibles, et ceci est largement dû à une situation économique finalement assez morose dans le monde émergent sur les 10 dernières années. Il n'y avait pas énormément de dynamisme, pas énormément de croissance. Deuxième point qui explique ce manque de croissance, c'est que les marges bénéficiaires des entreprises émergentes ont baissé. Et là encore, je veux dire, j'ai envie de comparer ça avec ce qui s'est passé sur S&P 500, où les marges de profitabilité aujourd'hui sont au plus haut historique, jamais vu. Les marges dans le monde émergent ont baissé parce que, bon, d'abord, les ventes n'ont pas beaucoup progressé, donc la dilution des coûts ne s'est pas faite. On a eu, en même temps, pas mal de pressions inflationnistes, Covid ou pas Covid, autre phénomène. Et on a également eu le dollar qui ne cessait de monter. Et on sait très bien que beaucoup de coûts pour les entreprises émergentes sont dollarisés. Et le coût de la dette, par exemple, très souvent, il reste dollarisé. Donc la hausse du dollar a joué contre les marges des entreprises émergentes. D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que effectivement, il n'y a pas eu de croissance de bénéfices en dollars, mais si on regarde la croissance des bénéfices par action en monnaie locale, il y en a eu quand même un peu, 5% sur les par an, 5% par an sur les 10 dernières années. Donc, c'est pas énorme, mais quand même, malgré toutes les difficultés, tous les vents contraires, les entreprises émergentes ont pu délivrer un tout petit peu de croissance en monnaie locale. Et donc ici, on voit le dollar fort a quand même mangé les 5% qu'il y avait éventuellement à prendre.
Et donc maintenant que le dollar non plus, voire s'affaiblit, est-ce qu'on voit un changement de situation ou non?
C'est effectivement la vraie question. Clairement, un dollar plus faible soulage les marges des entreprises. C'est assez naturel. Et depuis environ mi-2023, on constate que les marges bénéficiaires des entreprises émergentes sont en récupération. C'est pas uniquement le dollar, c'est aussi parce que forcément, quand tout monte et les ventes ne progressent pas, mais la tendance de tous les chefs d'entreprise est de restructurer un tout petit peu les structures, les bases de coûts, pour que effectivement les marges quand même tiennent un peu. Donc on profite aujourd'hui de la baisse du dollar et aussi de tous les efforts de restructuration qui ont eu lieu ces 10 dernières années. Ce qu'on n'a pas pour l'instant, c'est la croissance de vente. Elle y est, mais elle y est un peu par secteur, par segment d'activité. Elle n'est pas généralisée. D'accord? Donc, sans cette croissance de vente, cette vraie reprise de croissance économique dans le monde émergent, nous devrions tout de même avoir progressivement plus de croissance des bénéfices dans le monde émergent. On le voit déjà en 2025, où on a les BPA qui sont estimés à plus de 12% dans le monde émergent et à plus 16% en Asie. Donc 12 et 16%. Et alors qu'en même temps, dans le monde développé, on est à plus 7%. Donc on commence à noter une petite surperformance ici. Bon, on est toujours à 12% sur les États-Unis, mais les États-Unis, ça reste un peu ambigu parce que si on exclut les 7 entreprises qu'on connaît, tout le reste de S&P 500, franchement, on ne croit pas beaucoup, quoi.
C'est-à-dire que 7% pour les pays développés sont, y compris les États-Unis, qui est voilà, lui-même voilà. À 12%.
Voilà, c'est ça. Mais parce qu'on a fait en Europe, on s'appelle, etc. Donc on commence à avoir quand même quelque chose qui bouge au niveau des cas dans le monde émergent. Et qu'est-ce qui pourrait arriver en plus si on avait un environnement de croissance plus favorable, lui-même causé par un dollar plus accommodant, par une politique monétaire mondiale accommodante. Bon, bien sûr que si le dollar baisse, je vais recommencer. On a quand même un frein à la croissance mondiale et émergente qu'il ne faut pas oublier, c'est le commerce international, qui lui est en train de faiblir suite aux droits de douane, suite à toute la pagaille qui a été annoncée par les États-Unis et par Trump. Et donc cette baisse du dollar et en plus donc le commerce international qui baisse, la baisse du dollar en plus va probablement impacter les pays qui exportent beaucoup, les pays émergents qui exportent beaucoup, comme par exemple Taïwan et Corée, qui étaient des stars effectivement sur les 2, 3, 4 dernières années, Corée un peu plus récemment. Et de l'autre côté, le dollar plus faible et les monnaies émergentes qui sont un peu plus fortes vont très probablement favoriser les économies et les entreprises domestiques, donc davantage tournées vers elles-mêmes et moins exportatrices. c'est pas totalement certain comment ces phénomènes vont se jouer exactement. Je donne l'exemple, on a un Taïwan dollar, un dollar de Taïwan plus fort face à l'euro, et qui va être positif pour les retours pour un investisseur en euros sur une valeur taïwanaise, mais de l'autre côté, ce même investisseur, il va devoir digérer l'impact d'un bénéfice par action en euros qui va être affecté par la baisse, par la hausse du dollar taïwanais. Pardon, c'est un peu compliqué, je suis désolé. Donc on ne sait pas exactement comment ces effets vont se faire. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% comment ça va se jouer. Mais quand même, notre positionnement futur et tous nos efforts de recherche en ce moment dans ce bureau vont plutôt dans le sens des entreprises tournées vers les marchés domestiques. Nous pensons que la reprise de bénéfices par action, de croissance, va être plus forte pour les entreprises domestiques plutôt que pour les entreprises exportatrices, encore une fois, à cause de ce qui se passe sur le commerce international d'une part et à cause de la dépréciation du dollar qui est structurelle.
Ok, intéressant. Merci beaucoup, Wojtek, pour ça. Je pense que ce sera le mot de la fin pour ce mois-ci.
Une période riche.
J'espère que je n'ai pas tout le monde n'est pas confus maintenant après mes dernières phrases.
c'est un podcast, on pourra se réécouter plusieurs fois ton passage sur le tauloir de l'or taïwanais.
C'est simple, c'est un changement de leadership.
Voilà. Oh, très bien, merci Charles.
Voilà. Le mot de la fin, très bien. Parfait, merci beaucoup à tous les deux et puis merci à tous et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.
Merci. Au revoir.